Et c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent, au nom d'un dieu, entendent imposer la loi d'un groupe. Déclaration ce matin d'Emmanuel Macron au Panthéon. À l'occasion du 150e anniversaire de la République, le chef de l'État qui a par ailleurs précisé qu'un projet de loi de lutte contre les séparatismes sera présenté dès cet automne.
10 établissements scolaires sont actuellement fermés en métropole et 12 autres à La Réunion en raison de cas de contamination au coronavirus.
Oui, c'est ce qu'a fait savoir ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, nous recevrons Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion.
Au troisième jour du procès à Paris des attentats de janvier 2015, le principal accusé s'est dit innocent ce matin.
Ali Riza Pola, accusé de complicité des crimes terroristes des frères Kouachi et d'Amédi Coulibaly, s'en est pris, je cite, aux balances mythomanes qui, selon lui, auraient menti. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait-il approuvé en privé le projet américain de vendre des armes aux Émirats Arabes Unis? C'est du moins ce que laisse entendre ce matin le New York Times. Enfin, on l'a appris hier, l'anthropologue américain David Graeber, figure de proue du mouvement de dénonciation des abus du capitalisme Occupy Wall Street, est mort. Il était âgé de 59 ans. C'est un événement le plus souvent assez largement passé sous silence en France, mais que le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait lui choisi non seulement de mettre à l'honneur, mais aussi à profit à l'occasion de la célébration au Panthéon du 150e anniversaire de la proclamation de la Troisième République, considéré comme l'acte de naissance historique de la République française. Eh bien, le président s'est lancé ce matin dans un discours de combat et de conquête, pour l'essentiel dédié à l'unité de la nation. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, pas plus tard que la semaine dernière, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait déjà fustigé la banalisation de la violence. Cette semaine encore, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui évoquait, lui, l'ensauvagement de la société. Et l'on pourrait encore préciser que le discours ce matin du président intervient en réalité en amont d'un projet de loi prévu pour l'automne contre les dérives sectaires ou communautaristes. Alors, faut-il en déduire que la priorité de la fin du quinquennat sera donnée à l'ordre républicain? Quoi qu'il en soit, Stéphane, ce qui étonne au fond, c'est que le discours du président ce matin avait en réalité peu de choses à voir avec la célébration de la République.
Alors, disons qu'Emmanuel Macron a certes célébré la République à travers ce discours très court, pour une fois, qui a duré une vingtaine de minutes. Il a vanté l'idéal républicain qui s'exprime à travers la devise liberté, égalité, fraternité. Il a rappelé que c'est la République proclamée par Gambetta en 70 qui fait que chaque Français est aujourd'hui un citoyen libre, qu'elle est fragile et qu'elle est un idéal à faire vivre et à reconquérir sans cesse, mais plus que la République, c'est la nation et le nécessaire maintien de son unité qui l'a semblé exalter à travers ce discours.
C'est tout cela, entrer en République française. Aimer nos paysages, notre histoire, notre culture en bloc. Le Sacre de Reims est la fête de la Fédération. C'est pour cela que la République ne déboulonne pas de statut, ne choisit pas simplement une part de son histoire. Car on ne choisit jamais une part de France, on choisit la France.
Le Sacre de Reims et la fête de la Fédération, on n'est plus seulement dans la République, mais aussi dans ce qui l'a précédé, notamment la monarchie. Car selon le chef de l'État, c'est aussi ce qui l'a précédé qui a permis la République. Il a notamment cité l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 qui impose le français dans les documents officiels et a affirmé que la langue était le berceau de la République bien avant qu'elle n'advienne. Ce discours donc semblait être plus que de la République, une célébration de la nation et de ce qui permet de maintenir son unité.
Et au fond, Stéphane, le discours de ce matin aura surtout été l'occasion d'affirmer, ou plutôt de réaffirmer, un certain nombre de dogmes du macronisme.
Oui, il y a d'abord le culte des héros, cher à Emmanuel Macron à travers la République. Il a surtout célébré les héros de la République. Il a d'abord cité Léon Gambetta, qui l'a proclamé, et puis Marie Curie, Félix Éboué, Gisèle Halimi, par la suite Charles Péguy, Marc Bloch, Albert Camus. On voit que pour Emmanuel Macron, la République existe surtout par et à travers les grandes figures qui la font vivre. Ensuite, quand il a rappelé les idéaux républicains, et en particulier l'égalité, c'est l'égalité des chances dont il a parlé et qui fait écho à l'une des valeurs cardinales du macronisme, la responsabilité de chacun.
Chaque citoyen, quel que soit le lieu où il vit, le milieu d'où il vient, doit pouvoir construire sa vie par son travail, par son mérite. Nous sommes encore loin, trop loin de cet idéal.
Chacun est responsable de son destin pour Emmanuel Macron, destin personnel qui s'inscrit dans un destin commun, car pour lui, en République, il y a des droits, mais il y a aussi et surtout des devoirs. C'est donc une certaine République que le président a célébrée et glorifiée ce matin, une République un peu aux couleurs macroniennes. Il en a aussi profité pour afficher son intransigeance sur le régalien, vous en parliez. Il n'y a rien au-dessus des lois toujours supérieures de la République, a-t-il affirmé, et il a prôné une très grande fermeté dans la protection et dans la lutte contre ceux qui sont attaqués par les anti-républicains, notamment les élus et les forces de l'ordre.
Merci Stéphane Robert. Alors évidemment, avec ce discours de fermeté, thème cher à la droite et à l'extrême droite, difficile de ne pas se projeter dans la course à la présidentielle quand le Rassemblement National salue d'ailleurs une forme de victoire idéologique tout en se considérant plus légitime et identifié sur la revendication de l'ordre républicain. De leur côté, les Républicains multiplient les attaques depuis quelques jours, à l'instar du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, pour qui la sécurité restera l'immense faillite du quinquennat. Des Républicains qui se retrouveront d'ailleurs à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain, au Port Marly dans les Yvelines pour une rentrée placée officiellement sous le signe de la jeunesse, mais aussi parasité par des questionnements sur leur candidat pour 2022, pas plus tard que la semaine dernière à la Baule, où les LR de Loire-Atlantique tenaient leur université d'été. On se souvient que le débat sur une éventuelle primaire s'était déjà assez largement imposé. Alors que près de 12,5 millions d'élèves faisaient leur rentrée mardi dernier, Jean Castex, en visite dans une école de Châteauroux, avait mis en avant sa sérénité et assuré que tout était prêt pour faire face au coronavirus. C'est presque une rentrée normale, avait même fait valoir le Premier ministre. Et pourtant, 72 heures plus tard à peine, voilà qu'on apprenait ce matin par la voix de son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, que 22 établissements scolaires avaient d'ores et déjà été fermés en raison de cas avérés de Covid-19, 10 en métropole et 12 à La Réunion, et que plus d'une centaine de classes étaient actuellement fermées. Adrien Paluet, bonjour.
Bonjour.
Difficile avec ces chiffres, Adrien, de ne pas avoir une forme d'échec ou à tout le moins d'impréparation du gouvernement.
Oui, mais pour le ministre, pas de panique, puisqu'il ne s'agit que de 22 établissements sur les 60 000 présents sur le territoire. D'autant plus qu'à La Réunion, la situation semble s'améliorer. Lors de la rentrée des classes sur l'île, le 17 août dernier, une trentaine d'établissements étaient fermés contre 12 aujourd'hui. La situation reste quand même préoccupante, puisqu'en métropole, des établissements sur l'ensemble du territoire ferment régulièrement depuis le début de la semaine. À Paris, ce sont deux classes d'une école primaire du 16e arrondissement qui n'accueillent plus d'élèves depuis hier. Idem à Marseille, pour une école là aussi du 16e arrondissement de la ville. Dans la métropole lyonnaise, des écoles à Saint-Priest et Saint-Didier-au-Mont-d'Or ont dû aussi fermer leurs portes. Dans d'autres cas, la fermeture est partielle à Amiens et à Mons, en Indre-et-Loire. Des quarantaines ont été prononcées par les agences régionales de santé et des enseignants remplaçants font cours aux élèves présents. Pas très rassurant, en revanche, pour Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE. Pas question pour lui que les élèves retournent faire l'école à la maison au risque de creuser encore plus les inégalités. Il dénonce d'ailleurs le manque de préparation du gouvernement qui n'a pas pris selon lui les mesures suffisantes pour gérer la propagation du virus.
Notre fédération s'appuie sur ce que dit le conseil scientifique. Il y a trois façons de se protéger du virus. La plus efficace est la distanciation sociale. Donc pour cela, il faut embaucher des enseignants de façon massive, comme en Italie qui a embauché 84 000 enseignants pendant les vacances. C'est-à-dire qu'ils ont bossé pendant les vacances, eux, pour permettre d'avoir moins de pression humaine dans une salle de classe. Donc ça veut dire aussi ce que dit le protocole, d'ailleurs, de recenser les tiers-lieux où l'école peut se faire en dehors de la classe. Les gymnases, les bibliothèques, les parcs et jardins. Ensuite, il est évident qu'il faut mettre des points d'eau pour que les enfants puissent se laver les mains quand ils en ont besoin. Parce que ce n'est pas vrai, le ministre le sait pertinemment, puisqu'il a eu ces rapports-là comme nous, que les points d'eau et les sanitaires dans notre pays ne sont pas en nombre suffisant, déjà en dehors de la période de Covid.
Voilà, Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE. Merci Adrien Paluet. Après des débuts laborieux, parasités par des problèmes techniques, mais aussi des querelles sur le port du masque, le procès des attentats de janvier 2015 en France est enfin entré dans le vif du sujet hier avec l'examen du profil des 14 accusés, dont on rappellera que 3 manquent à l'appel et sont jugés par défaut. Alors ce matin, la cour d'assises spéciale s'intéressait au cas d'Ali Riza Pola, accusé de complicité des crimes terroristes des frères Kouachi et d'Amédi Coulibaly. C'est sur lui que pèsent aujourd'hui les accusations les plus lourdes. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et ce matin, Florence Turme, sans surprise, il s'est dit innocent.
Il ne s'est pas levé à l'arrivée de la cour et il s'en explique « parce que je suis innocent, je suis là à côté de balances mythomanes qui ont raconté des conneries ». Le ton est donné, verbe haut, débit rapide à travers son masque, Ali Riza Polat se lance debout cette fois dans le récit de sa vie, une vie qu'il résume en deux mots, business et argent. L'école, c'était pas mon fort, j'étais un peu bon, mais je voulais pas travailler. À 14 ans, premier fait de délinquance, vol, petit larcin, très vite il passe au trafic de stupéfiants, découvre le monde de la prison. Et les mecs de ma cité qui étaient millionnaires, je me suis dit, je veux plus. Le président s'interroge et interroge, pourquoi faire? Il y en a qui sont accros à la lecture, vous c'est l'argent. Dialogue décalé entre deux univers, Ali Riza Polat reprend, bah oui, je veux mourir riche, acheter des trucs, avoir une belle vie, profiter. Franchement, 1 million d'euros c'est rien du tout, lance-t-il bravache. Quand je ramenais de la drogue, je prenais 100 000 au passage, mais pour les escroqueries, beaucoup plus. Les débats glissent sur le terrain religieux, provoque une nouvelle passe d'armes entre avocats, mais l'accusé ne se démonte pas. Je fais mes 5 prières par jour, mes conneries à côté, je m'élonge pas, mais je demande pardon à Dieu, ça reste des péchés. Aujourd'hui, il estime payer son amitié avec Amedi Coulibaly, se désolidarise de ses actes, reste sur son terrain favori dans une ultime provocation. Quand je sors, je vous le dis ouvertement, je vais faire encore du banditisme, encore plus. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
La pression est encore montée d'un cran hier soir sur la Russie qui continue de rejeter toute implication dans l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. L'Union européenne n'exclut pas d'éventuelles sanctions. Dès hier d'ailleurs, l'économie russe a été secouée par cette perspective. Le rouble a plongé à son plus bas niveau depuis le pic de la pandémie de coronavirus au printemps dernier. La bourse de Moscou a également dégringolé, chutant de plus de 3% à la clôture. Quant à l'OTAN, l'organisation a annoncé se réunir aujourd'hui à Bruxelles. La Russie chercherait-elle à décrédibiliser par ailleurs l'élection présidentielle du 3 novembre aux États-Unis et notamment le vote par correspondance, dans tous les cas ce que suspecte le département de la sécurité intérieure dans une note interne dévoilée hier, précisant que Donald Trump lui-même alerte depuis des semaines et sans preuve tangible d'un risque de fraude en cas de recours massif donc au vote par voie postale dont tout le monde s'attend à ce qu'il soit massif du fait des inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus. Anthropologue, militant, altermondialiste et anarchiste, il était considéré comme l'un des intellectuels les plus en vue de la gauche radicale anglo-saxonne, on l'a appris hier. David Graeber est décédé la veille à l'âge de 59 ans. Alors il était l'auteur de nombreux ouvrages réputés pour ses écrits mordants, incisifs sur la bureaucratie et le capitalisme. Et puis bien sûr, Eric Biegala, il était notamment connu comme l'une des figures de proue du mouvement Occupy Wall Street.
David Graeber, c'était un anthropologue. Il avait été professeur associé à la Yale University, puis il avait assumé la chaire d'anthropologie à la prestigieuse London School of Economics. Mais c'était aussi, et peut-être même surtout, un militant. Lui-même se disait d'ailleurs militant, anarchiste, depuis l'âge de 16 ans. Et c'est probablement cet engagement, très à gauche, qui lui avait valu de devoir quitter son poste à Yale en 2005. En 2011, David Graeber est à la pointe du mouvement Occupy Wall Street. Il a été crédité comme l'un des inventeurs du slogan phare du mouvement « Nous sommes les 99%, plus précisément, nous sommes les 99% qui ne tolérons plus l'avidité et la corruption des 1% restants ». Mais David Graeber, c'est surtout l'inventeur d'une critique radicale du monde du travail contemporain, raffinant les concepts de bureaucratisation initiés dans les années 70. Graeber parle, lui, de « bullshit jobs », ces boulots à la con, qui ne servent à rien, ne produisent rien et pourtant prolifèrent. Son livre sur le sujet, « Bullshit jobs », sorti en 2018, fait un véritable tabac. Voici comment il décrivait ses emplois bidons à l'occasion d'un entretien sur France Info à la même époque.
Des petits managers, des gens du télémarketing, des gens qui font des prêts à distance, un nombre incroyable de gens qui travaillent dans l'administration pensent secrètement que s'ils n'existaient pas, ça ne ferait aucune différence. Beaucoup de gens ne font rien. Moi, je rencontre sans cesse des gens, quand j'ai fait ces recherches, qui me disent qu'ils travaillent, disons, une heure par jour.
En 2019, David Graeber avait encore soutenu le mouvement Extension Rebellion en Angleterre. Il avait également pris le parti du Labour, soutenant notamment Jeremy Corbyn aux législatives de 2019. Il s'était encore illustré en soutenant l'expérience du communalisme démocratique du Rojava kurde en Syrie, la dernière expérience en date d'organisation sociale alternative au capitalisme et inspirée par quelques intellectuels libertaires américains. Une expérience qui se retrouvera finalement largement balayée par l'offensive turque de la fin de l'année dernière.
Voilà des années maintenant que les Émirats arabes unis souhaitent acquérir des avions de chasse américains F-35, sauf que jusqu'à présent aucun deal n'était possible. Et pourquoi? Tout simplement pour permettre à Israël de maintenir sa supériorité technologique dans la région. Alors finalement, la vente aura bien lieu à la faveur d'un récent accord de normalisation entre les Émirats d'un côté et l'État hébreu de l'autre, accord parrainé par Washington. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Alors, selon des informations révélées ce matin par le New York Times, voilà qu'on apprend que c'est même Benjamin Netanyahou en personne qui aurait en réalité approuvé en privé ce projet de vente, contrairement donc, Frédéric, à ses dernières déclarations publiques.
Exactement. Les Émirats veulent acheter des F-35. Le candidat Trump veut en vendre pour montrer qu'il trouve des clients aux ouvriers des usines d'armement américaines. Benjamin Netanyahou veut afficher un accord de paix avec un pays de Golfe. C'est un deal à trois et selon le New York Times, Netanyahou a bien fermé les yeux sur des ventes d'armes aux Émirats. Le journal écrit qu'en privé, Netanyahou informé ne s'est pas opposé à cette transaction alors que publiquement, il déclarait qu'il n'était au courant de rien. Et c'est ce double discours qui a conduit nos sources à nous parler, explique le New York Times. Il s'agit là d'avions de chasse F-35 de très haut niveau et de brouilleurs de radar EA-18G développés par Boeing. Or, une loi américaine prévoit qu'Israël ait l'exclusivité du matériel de pointe militaire américain au Moyen-Orient. Netanyahou vient de démentir. Si ces révélations qui ont fait la une des journaux du matin à la radio publique israélienne, si ces révélations sont exactes, elles vont relancer des critiques contre Netanyahou en Israël sur le thème « Il a bradé la supériorité stratégique du pays, il ment, il ne tient personne au courant dans les milieux militaires et au gouvernement », mais cela pourrait aussi secouer à Washington car l'administration Trump n'aurait pas informé le Congrès qui est pourtant compétent en matière de vente d'armes.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Quand Amnesty International tire la sonnette d'alarme alors même qu'une seconde vague de Covid-19 menace la planète, 7000 professionnels de santé sont morts du coronavirus depuis le début de la pandémie, c'est ce que révèle l'ONG. Pire encore, puisque selon elle, ces chiffres seraient très probablement sous-estimés. Et en tête de ce morbide hit parade, on trouve notamment le Mexique qui comptabilise au moins 1320 décès. Nathalie Hernandez, bonjour.
Bonjour.
Alors pour expliquer cet effroyable bilan, on trouve évidemment le manque de matériel de protection, mais aussi des systèmes de santé bien souvent défaillants, au point de conduire certains pays, Nathalie, à réprimer leur personnel soignant.
Oui, Amnesty révèle en effet aujourd'hui que les soignants sont deux fois plus nombreux qu'en juillet dernier à avoir perdu la vie dans le monde à cause du coronavirus. De 3000, on est passé à 7000 décès, s'insurge l'ONG. Selon elle, la première cause, c'est d'abord la hausse des infections. Trois pays sont en tête. Vous l'avez dit, le Mexique avec 1320 décès devant les États-Unis, 1077 et le Royaume-Uni, 649 morts. Mais l'augmentation des contaminations n'est pas la seule fautive. Les équipements de protection individuelle, les EPI, font cruellement défaut dans près de 63 pays, estime Amnesty. Au Mexique, par exemple, une femme médecin a expliqué devoir consacrer 12% de son salaire mensuel pour pouvoir s'équiper, et ce, malgré l'envoi de matériel. Au Venezuela, où 30% des victimes de la Covid sont des soignants, 20 tonnes d'EPI ont été envoyées mi-juillet dans 31 hôpitaux, mais il semble, selon Amnesty, qu'elle ne soit jamais arrivée à destination. À cela s'ajoute en effet la répression en réponse à la crise. Quand médecins ou infirmiers dénoncent leurs conditions de travail, selon Amnesty, eh bien la réponse, ça peut être une détention arbitraire avec au moins, par exemple, une dizaine d'arrestations enregistrées au Venezuela ou en Égypte depuis le début de la pandémie. Mais il y a aussi une autre situation préoccupante. Aux États-Unis, une aide-soignante a, elle, été licenciée, rapporte l'ONG, après avoir posté une vidéo dans laquelle elle lisait une pétition pour obtenir plus de matériel de protection.
Merci Nathalie Hernandez. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, en direct et en duplex de la rue de Grenelle. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Une première question, Madame Borne, je l'évoquais un peu plus tôt dans le journal, on a appris ce matin par la voix de votre collègue de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, que 22 établissements scolaires avaient été fermés en raison de cas avérés de Covid-19 depuis mardi dernier, c'est-à-dire date de la rentrée. Or, ce même jour, Anticipant déjà ce risque, le porte-parole du gouvernement avait lui déclaré que le congé parental serait possible dans le cas où la classe ou l'école serait fermée. Et puis finalement ce matin on comprend que Gabriel Attal avait sans doute parlé un peu trop vite. Vous en seriez encore à regarder quel est le bon dispositif selon vos propres mots. Comment est-ce possible ?
Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que d'abord, la priorité, c'est que les parents puissent continuer à aller travailler. Moi, je comprends que c'est évidemment préoccupant quand on pensait que ces enfants étaient scolarisés normalement et qu'il y a un souci et que les enfants se retrouvent à la maison. Mais la priorité, c'est bien de permettre aux parents de continuer à travailler et donc d'abord de regarder des solutions de garde pour les enfants. Effectivement, si dans certains cas, on n'arrive pas à mettre en place une garde pour les enfants, on trouvera un dispositif. Je crois que, vous savez, les parents, ils sont pas en train de se demander si ce sont des indemnités journalières ou de l'activité partielle. Ce qui leur importe, c'est d'abord que leurs enfants puissent être gardés et, à défaut, qu'ils puissent en effet avoir une indemnisation pour les jours où ils ne peuvent pas travailler.
Quel calendrier pour cette indemnisation ?
C'est une décision imminente qui doit être prise. On regarde, c'est techniquement compliqué, mais on va pas s'embêter avec ça. En tout cas, on trouvera bien une solution.
Elisabeth Borne, parlons maintenant de ce plan de relance. Il y a des manques dans ce plan, disait ce matin Laurent Berger chez nos confrères de France Inter. Le secrétaire général de la CFDT propose un chèque relance pour les ménages. Est-ce que cette option est définitivement enterrée ?
On fait le choix, effectivement, de soutenir d'abord l'investissement. Mais je voudrais rappeler qu'on n'a pas rien fait pour soutenir le pouvoir d'achat. La mise en place de l'activité partielle immédiatement après le début de la crise, avec près de 9 millions de salariés dont on a pris en charge la rémunération, je voudrais le redire, c'est 20 milliards d'euros jusqu'à présent, et ça sera évidemment plus d'ici la fin de l'année, de salariés. Donc c'est 20 milliards d'euros pour des salariés du pouvoir d'achat. À défaut, effectivement, les gens auraient été en grande difficulté, sans doute ils auraient perdu leur emploi. Donc le soutien à la demande, le soutien au pouvoir d'achat, on l'a fait. On est un des pays dans lequel le pouvoir d'achat a été le mieux préservé.
Voilà, donc là on parle de préservation, effectivement, mais finalement les gens ont gardé une partie de leur salaire qu'ils auraient eu s'il y avait eu de l'activité. Mais là on parlait de coups de pouce supplémentaires. Est-ce que c'est possible ? Votre collègue Bruno Le Maire parlait en juin d'éco-chèques, alors de chèques vraiment dédiés à la transition écologique. Est-ce que ça peut être une option ?
Le plan de relance, il a été annoncé. Vous avez vu qu'il ne comporte pas d'éco-chèque. Il y a eu une augmentation d'allocation de rentrée de 100 euros pour tout le monde. Donc il y a aussi ces mesures-là pour accompagner la reprise. Mais vraiment fondamentalement, au-delà des 470 milliards d'euros qu'on a déjà mis sur la table, ces 100 milliards d'euros, ils visent à préparer la France de demain. Il vise d'abord l'emploi, l'emploi et l'emploi.
Alors justement, plusieurs dispositifs impossibles aujourd'hui pour faire un bouclier, vous avez utilisé ce mot, un bouclier anti-chômage. Quand vous voyez Aéroports de Paris activer à la fois l'activité partielle de longue durée, les accords de performance collective, la rupture conventionnelle collective, vous dites parfait, cette entreprise utilise la boîte à outils à disposition, ou vous vous dites il y a un peu d'abus. Je rappelle qu'à propos de l'accord de performance collective chez ADP, l'UNSA parle d'un accord d'une violence inouïe.
Un accord, par définition, ça suppose que les partenaires sociaux soient d'accord. Donc le dialogue, il va se poursuivre au sein de l'entreprise. Et je pense que c'est la bonne méthode de passer maintenant dans les entreprises dont l'activité va rester en dessous de ce qu'elle était, de passer à des discussions avec les partenaires sociaux pour trouver le bon accord. Moi, ma priorité, c'est qu'on préserve au maximum les emplois, qu'on garde les salariés, qu'on garde les compétences. Le dispositif d'activité partielle longue durée permet précisément de faire ça. Quand vous avez une baisse d'activité de 20%, plutôt que de vous séparer de 20% des salariés, vous les gardez dans l'entreprise et le temps qui n'est pas travaillé peut être consacré à de la formation pour que demain, les salariés et donc l'entreprise soient plus forts.
Alors malgré ces boucliers, on s'attend à une vague de plans sociaux en cette rentrée, par exemple dans l'aéronautique. Vous-même avez renforcé les effectifs de Pôle emploi, mais quelles perspectives proposer aux chômeurs dans un contexte de récession économique ?
Alors on a de nombreux dispositifs qui vont être mis en place. On a notamment dans le cadre du plan de relance 1 milliard qui va être consacré en plus à la formation professionnelle. L'objectif, c'est d'accompagner les salariés à la fois quand ils sont dans une entreprise dont les métiers changent, mais surtout s'ils veulent aussi passer d'un secteur qui connaît des difficultés vers un autre secteur qui, au contraire, recrute, qu'on va soutenir dans le plan de relance. Les dispositifs sont là et on pourra bien accompagner les salariés, les demandeurs d'emploi et aussi les jeunes.
Mais ça demande une adaptabilité qui est importante, de demander à des salariés de l'aéronautique de demain peut-être faire des métiers dans la dépendance, des services à la personne. Est-ce que c'est envisageable?
Il faut que chacun puisse bâtir son projet professionnel. En tout cas, la formation, c'est ce qui vous donne la possibilité d'ouvrir les choix, et c'est bien dans ce sens qu'on interviendra dans le cadre du plan de relance.
Le gouvernement souhaite aussi avancer sur le chantier de la simplification. En droit du travail, des mesures prises pendant l'état d'urgence sanitaire pourraient être pérennisées. Quelles sont ces options? Qu'est-ce qui est sur la table, Elisabeth Borne?
Moi, je voudrais d'abord rassurer les partenaires sociaux. Évidemment, on en discutera avec eux. Je sais que, notamment sur les procédures de consultation des instances représentatives, il y a des inquiétudes. Je crois qu'il y a eu des bonnes simplifications, par exemple la possibilité de faire des visioconférences et donc de nourrir le dialogue social. Et puis, il faut que aussi dans les instances représentatives, on retrouve un temps normal. Les partenaires sociaux ont montré qu'ils pouvaient faire preuve de réactivité, mais que tout ne soit pas traité en urgence comme c'était nécessaire pendant la crise.
Donc il ne faut pas simplifier trop les délais de consultation des représentants syndicaux, par exemple.
Il faut que le dialogue social puisse se faire avec de la qualité, donc ça suppose aussi d'avoir le temps nécessaire pour regarder les dossiers.
Avant de conclure, Elisabeth Borne, un dernier mot. Ah, pardon.
Rapidement,
sur le statut des travailleurs des plateformes numériques, il y a un nouveau statut à inventer entre salariés et indépendants?
Moi, j'ai pas la réponse. C'est un sujet dont je pense qu'il faut qu'on parle là aussi avec les partenaires sociaux. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont pas tentés par le statut de salarié et qui se retrouvent justement dans l'activité de ces plateformes. Ma préoccupation, c'est que on ait une bonne relation, une relation équilibrée avec ces plateformes et que les salariés bénéficient de protection.
Et des discussions vont s'engager prochainement.
C'est dans
sur
l'agenda
ce sujet.
Social.
Et on en restera là. Merci Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne-Laure Jumet ainsi qu'à Laurent Macchietti pour les moyens techniques. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Ciel souvent voilé de la Bretagne au nord de la Seine, du soleil partout ailleurs. Quant aux températures, elles afficheront entre 20 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Annabelle Grelier pour le prochain journal de la rédaction.